Bonjour, coup de théâtre sous la coupole ce matin. L'Assemblée fédérale a décidé de ne pas reconduire le très contesté procureur général de la Confédération, Erwin Beyler. Nous ferons le point avec Vincent Bourquin et nous verrons ce qu'en pense le conseiller national socialiste genevois Carlo Sommaruga, dont le parti appelait pourtant à soutenir le patron du ministère public. Micheline Calmiré rencontre Vladimir Poutine en ce moment à Genève. Les organisations non gouvernementales comptent sur la présidente de la Confédération pour dire quelques bonnes vérités au Premier ministre russe en matière de droits de l'homme. Un exercice périlleux puisqu'il faut éviter de froisser le partenaire économique qu'il représente. Nous appellerons Manon Chic, directrice de la section suisse d'Amnesty International. Vie de meuf, c'est le titre d'un livre qui vient de paraître aux éditions JBZ et compagnie à l'initiative du collectif français Oser le féminisme. Recueil du sexisme ordinaire dans la vie familiale et professionnelle de femmes anonymes qui racontent leurs déboires quotidiens sur le blog du même nom. Nous recevrons Basma Foudloun, membre du collectif, à la fin de ce journal. L'après-midi s'annonce chaud et ensoleillé, mais ça ne va pas durer. Des petites perturbations porteuses de pluie et de fraîcheur sont attendues sur nos régions demain soir et jusqu'à samedi. En attendant, le mercure affichera encore 26 à 29 degrés aujourd'hui sous le soleil, nous dira Eric Faucher. Erwin Beyler n'est donc plus le procureur général de la Confédération. Le libéral radical chafouzois avait besoin de 114 voix pour être réélu, mais il n'en a obtenu que 109 devant les chambres fédérales réunies ce matin. C'était la première fois que le patron du ministère public de la Confédération était élu par le Parlement et pas par le Conseil fédéral. Une première qui s'est donc soldée par un coup de tonnerre, Vincent Bourquin.
Tout à fait, les parlementaires rencontrés dans les pas perdus tout à l'heure étaient extrêmement surpris. Beaucoup d'élus ont voulu donner une leçon à Erwin Beyler, mais ils n'ont pas imaginé que leur vote engendrerait son départ. Un seul parti était clairement opposé à l'ancien procureur du canton de Saint-Gall, l'UDC. Les démocrates du centre lui reprochent notamment son rôle dans l'affaire Ollenvegr du nom de ce banquier accusé de blanchiment et qui a été récemment acquitté par le tribunal pénal fédéral. L'UDC Christophe Mergely a notamment affirmé qu'Erwin Beyler avait joué un rôle déterminant dans l'engagement comme informateur du baron de la Drocombien, Ramos, dont le rôle aurait été de faire tomber Oscar Ollenweger et par ricochet Christophe Blocher. Christophe Blocher qui était pourtant à l'origine de la nomination du chafouzois à la tête du MPC. Erwin Beyler a aussi été attaqué pour sa manière de mener les enquêtes et de gérer le ministère public de la Confédération. Mais malgré ses critiques, la commission judiciaire des deux chambres l'avait tout de même soutenu par 9 voix contre 7 et une abstention. Mais cela n'a donc pas suffi. La balle est maintenant dans le camp de cette commission judiciaire qui espère pouvoir présenter un candidat au poste de procureur de la Confédération d'ici la prochaine session en septembre déjà.
Vincent Bourquin, en direct de nos studios du Palais fédéral à Berne, à vos côtés Carlo Sommaruga, bonjour.
Bonjour.
Conseiller national socialiste genevois et membre de la commission judiciaire des chambres fédérales. Contrairement à votre parti, vous étiez opposé à la réélection d'Erwin Beyler. Vous êtes donc satisfait du résultat ?
Moi, je pense que du point de vue politique, je suis satisfait. C'est clair que du point de vue humain, la situation est difficile pour M. Erwin Beyler, qui pensait effectivement venir au palais ce matin en ayant ensuite la réélection dans sa poche. Je regrette simplement que les choses soient pas été plus claires au niveau des messages des partis, notamment des partis du centre, centre-droite, où il a manqué quelques voix à M. Beyler. Donc, il aurait fallu être plus clair et laisser le mot d'ordre plus libre pour chaque élu, dans la mesure où ce matin, je pense qu'il n'y a pas eu de victoire politique d'un parti sur un autre, mais il y a eu surtout une prise de conscience que l'homme Erwin Beyler n'était pas celui de la situation et de la nouvelle institution créée, qui est ce ministère public indépendant.
Pourquoi est-ce que vous ne lui faisiez plus confiance ?
Bon, c'est de la première fois qu'on était amené à devoir élire un procureur qui était un procureur dans une institution nouvelle, indépendante totalement du pouvoir politique, puisqu'il n'était plus soumis au Conseil fédéral et au chef du département de justice et police. Et cette fonction doit être assumée par quelqu'un qui a une haute image auprès de la population et des institutions, quelqu'un qui porte le discours moral en matière pénale, qui porte de manière proactive le discours contre la criminalité économique, le terrorisme et la sécurité de l'État. Et là, on voit que M. Beyeler n'avait pas cette carrure et il était indispensable pour aller de l'avant, d'avoir quelqu'un qui finalement soit plus dynamique et surtout peut-être qu'il ne soit pas un homme du passé de toute cette problématique qui avait agité la Confédération au moment de la non-réélection aussi de Christophe Blocher.
Cette non-réélection de ce matin, elle vous a quand même surpris, Carlos Omaruga ?
Oui, j'ai été surpris. Il y a quelques jours, j'écrivais un texte où j'étais persuadé que M. Beyeler allait être élu avec un faible score, mais que tout de même, la majorité du Parlement allait le soutenir. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que certainement, il y a eu beaucoup d'élus qui, à titre individuel, ont décidé au dernier moment de ne pas le reconduire, alors que l'institution avait peut-être plus à perdre de la présence d'un procureur finalement relativement faible, que simplement de le réélire pour contrer les attaques de l'UDC. Moi, je suis convaincu qu'on va pouvoir aujourd'hui retrouver une personnalité forte qui pourra porter haut et fort les couleurs de l'accusation publique fédérale.
Et justement, vous êtes membre de la commission judiciaire. Ce sera facile de trouver un successeur ?
En tant que M. Erwin Beyeler était dans la course pour son propre remplacement, il était exclu que qui que ce soit s'annonce. Je pense que maintenant, il faut simplement laisser passer un peu quelques jours, voire une ou deux semaines, pour que la surprise et les effets de la surprise retombent. Et je pense que les partis, que ce soit le Parti libéral radical, voire le PDC, mais même le Parti socialiste, seront à même de trouver des candidats à la candidature valable. Et puis la commission aura tout l'été pour préparer la candidature et la présenter pour la session de septembre. Et ainsi, il n'y aura pas de vacances au sein du ministère public, puisque M. Erwin Beyeler, contrairement à ce que vous disiez, est en charge de cette fonction jusqu'à la fin de l'année, et que la désignation qui interviendrait au mois de septembre serait pour le 1er janvier 2012.
Merci beaucoup, Carlos Omaruga, d'être venu dans ce journal, conseiller national socialiste genevois, invité par Vincent Bourquin. Bon après-midi à vous, merci.
Merci, au revoir.
Le Conseil des États a validé ce matin la loi sur la recherche sur l'être humain. Les sénateurs ont plébiscité à l'unanimité ce texte qui autorise notamment la recherche sur les embryons et les fœtus issus d'un avortement. Les orateurs ont estimé que sans recherche sur l'être humain, les avancées de la médecine et de la science étaient impossibles et que la loi permettait d'équilibrer finalement les choses. Pierre-Yenny.
Oui, un savant équilibre entre le respect de la dignité humaine et l'avancée de la recherche. Mais l'équilibre est parfois difficile à trouver. Les deux heures de débat ce matin le prouvent. Le point principal d'accrochage a consisté dans l'obligation faite aux cantons de créer des organes de médiation, des espaces d'écoute entre patients, médecins et scientifiques, comme l'explique la socialiste Liliane Maury-Pasquier.
Comme j'ai pu le constater, ces espaces d'écoute favorisent l'échange d'informations et facilite la relation entre soignants et soignés. Bref, il renforce la nécessaire confiance qui doit régner entre les milieux médicaux ou de la recherche et la population.
Des arguments contestés par une large minorité du Conseil des États et par le conseiller fédéral Didier Burkhalter.
Ce n'est pas nécessaire. Nous avons dans ce domaine aussi les commissions d'éthique qui ont une série de tâches qui vont dans le sens souhaité par la majorité avec ces nouveaux éléments. Puis, il faut ajouter également que, si vous regardez la situation internationale, personne ne prévoit une obligation d'établir, en plus pour cette recherche-là, un organe de médiation. C'est pourquoi nous estimons que ça, c'est un élément supplémentaire. Il ne nous paraît pas nécessaire et nous vous demandons de soutenir la minorité.
Message au final non suivi par la majorité puisque les sénateurs ont approuvé ces organes de médiation par 18 voix contre 14. Mais les cantons qui accueillent peu de recherches pourront désigner un organe de médiation commun.
Il n'y aura pas de mesures spéciales pour empêcher les hausses de primes maladie pour la simple et bonne raison que le système de financement hospitalier change le 1er janvier prochain. Le Conseil des États s'est rallié tacitement au national ce matin. La loi urgente est enterrée, mais les sénateurs ont invité le Conseil fédéral à prendre ses responsabilités pour corriger les éventuelles augmentations de cet automne. Alors que l'association fêtière des assureurs estime que le surcoût sera de l'ordre d'1,6%, Didier Burkhalter reconnaît qu'il y aura des hausse dans certains cantons, mais il se veut rassurant. Écoutez.
Si on veut contenir au maximum les hausses de primes dans un système où les coûts et surtout les technologies, les façons de soigner augmentent toujours, c'est pas le financement hospitalier qui sera déterminant, c'est la manière dont on réussit à diminuer les mauvaises incitations, en particulier le volume beaucoup trop grand encore maintenant des actes, que ce soit en milieu stationnaire ou en milieu ambulatoire. Donc le vrai débat, il a lieu dans le cadre des mesures d'économie, dans le cadre des mesures de réforme que nous faisons, notamment les réseaux de soins intégrés, ce financement hospitalier qui a terme, mais véritablement en concurrence les différents hôpitaux et a pour effet de presser aussi sur les coûts inutiles.
À terme, c'est quand ?
Alors, moi, j'essaie de le faire tout de suite avec les partenaires maintenant. Déjà cette année ou l'année passée, on peut déjà dire que l'augmentation des coûts à charge de l'assurance obligatoire des soins n'a été que de 1,8%. C'est un résultat très bas historiquement. La moyenne est à plus de 4, presque 5% par année. Et puis, cette année, les premiers mois montrent que nous avons quasiment stabilisé les coûts alors que les recettes des primes sont en net augmentation. Donc ça veut dire qu'on est dans une situation où l'assurance obligatoire des soins met en réserve. Et nous espérons que ça permette aux assureurs d'éviter de demander de trop fortes hausses cet automne lorsqu'il s'agira de fixer les primes.
Le ministre de la Santé, Didier Burkhalter, interrogé par Christelle Domingeau. Micheline Calmiré rencontre en ce moment Vladimir Poutine à Genève. Le Premier ministre russe a prononcé ce matin un discours devant les délégués réunis pour la 100e Assemblée Générale de l'Organisation Internationale du Travail, l'OIT, et plusieurs organisations non gouvernementales espèrent que la présidente de la Confédération abordera les thèmes qui fâchent avec son interlocuteur russe. Bonjour Manon Chic.
Bonjour.
Directrice de la section suisse d'Amnesty International, qu'est-ce que vous attendez finalement de Micheline Calmiré aujourd'hui ?
Eh bien, ce que j'attends, c'est qu'effectivement, elle aborde avec Vladimir Poutine les sujets problématiques en matière de défense des droits humains. On sait que la Russie est un pays où tant les journalistes que les défenseurs des droits humains sont victimes de harcèlement, d'intimidation, voire même sont assassinés. Et je crois que c'est aujourd'hui le rôle de Micheline Calmiré de pas simplement dérouler le tapis rouge, mais aussi d'aborder ce genre de sujet avec son homologue.
La Russie de Poutine et de Medvedev est encore loin d'être un État démocratique.
Oui, effectivement, je crois qu'on peut dire que c'est surtout loin d'être un état de droit. Il y a une justice qui est encore défaillante. Il n'y a pas de véritable séparation des pouvoirs entre exécutif et la justice. On a une situation où des gens sont condamnés simplement pour des raisons politiques. Et puis, il y a un vrai problème aussi de liberté de réunion ou de manifestation. En Suisse, on peut manifester contre la venue d'un chef d'État, par exemple, ou en demandant que certains thèmes soient abordés. En Russie, c'est pratiquement impossible. Quand il y a des manifestations non autorisées, elles sont la plupart du temps réprimées brutalement.
Vous le disiez, les voix dissidentes, les journalistes aussi qui sont critiques à l'égard du gouvernement sont réduits au silence par les autorités. C'est difficile aussi pour les organisations non gouvernementales qui sont victimes de harcèlement si elles dénoncent les agissements du pouvoir en place.
Tout à fait. Et Amnesty International le constate par elle-même. On a un bureau à Moscou et c'est souvent très difficile de pouvoir effectuer notre travail parce qu'il y a un harcèlement bureaucratique. On nous demande en fait de toujours rendre des comptes sur ce qu'on fait et on se rend bien compte que c'est dans l'idée de nous empêcher de travailler. Et si on fait ça avec une organisation internationale, ben imaginez ce que c'est avec des organisations nationales ou locales. C'est très difficile pour ces ONG de faire leur travail.
Et Micheline Calmiré est face à une équation délicate qui se pose un peu à chaque fois qu'on accueille le représentant d'un partenaire économique où il y a des soucis en matière de droits de l'homme, Manon Chic. Il faut trouver le juste milieu entre la défense de ces droits de l'homme et maintenir et conserver quand même les intérêts économiques suisses.
Bien sûr, c'est une équation qui est délicate. En même temps, je crois que il ne sert à rien de sacrifier les droits humains sur l'autel de l'économie. On a tout intérêt, si on veut maintenir des bonnes relations économiques, à ce que les droits humains soient respectés. Ça ne sert à rien pour les entreprises suisses d'investir en Russie si tout d'un coup cet État se retrouve complètement chamboulé, si les droits sont plus respectés. Ça n'est pas un lieu sûr pour investir. Donc en fait, la Suisse a tout intérêt à ce que la Russie devienne un pays qui respecte véritablement les droits humains.
Merci beaucoup Manon Chic d'être venue en direct dans ce journal, directrice de la section suisse d'Amnesty International, invitée par Nicolas Vultier. Bon après-midi
merci,
à vous. Merci,
bon après-midi.
Le 12-30, David Racana.
Reportage, l'absence d'Ali Abdullah Saleh au Yémen depuis une semaine n'a pas permis de débloquer la situation politique dans le pays, secoué, vous le savez, par une révolte populaire qui dure depuis maintenant 4 mois. L'opposition veut faire chuter le régime en place, mais elle apparaît plus divisée que jamais sur les suites à donner au mouvement, à tel point que les jeunes s'en désolidarisent et les accusent de profiter du mouvement, Charlotte Velu.
Ils ont commencé la révolution et la font vivre depuis 4 mois. Des jeunes, des activistes des droits de l'homme, de simples citoyens, tous se réclament indépendants et voient d'un mauvais œil les partis politiques d'opposition. Abdullah, docteur en sciences politiques à l'université de Sanaa, il a rejoint le camp des anti-régimes.
Nous sentons que certains groupes ici dans le campement des manifestants de l'université de Sanaa souhaitent s'approprier la révolution, notamment les partis politiques. Ils font de la révolution une crise politique, mais c'est bien une révolution. Ils veulent seulement un quart ou une demi-révolution et nous n'accepterons pas cela.
Principal point de discorde, le plan de médiation du Golfe. Fin mai, l'opposition politique a signé la feuille de route des monarchies arabes. La rue yéménite, elle, la rejette en bloc puisqu'elle accorde une immunité judiciaire à Saleh et ses proches. Afra, étudiante en architecture, membre du comité des jeunes de la révolte.
Nous sommes en train de perdre la révolution, mais maintenant, nous voulons la reprendre. Qu'Ali Abdullah Saleh soit mort ou vivant, ça ne change rien. Il ne sera plus jamais président pour nous. D'après la loi, il reste chef de l'État, mais pas pour le peuple. Nous travaillons en groupe, sans responsable. Une façon de dire à tout le monde qu'il est le bienvenu et que personne n'est au-dessus de personne.
Le dernier projet des jeunes manifestants, constituer un conseil présidentiel transitoire. Ils assurent que plusieurs personnalités de taille se sont déjà ralliées à leur cause. Leur identité devrait être révélée dans les prochains jours.
Un reportage signé Charlotte Velu. Les policiers grecs ont fait usage de gaz lacrymogène à la mi-journée pour repousser des manifestants qui tentaient de bloquer le Parlement, où le gouvernement doit lancer un débat sur de nouvelles mesures d'austérité. Des échauffourées ont éclaté entre des policiers anti-émeutes et de petits groupes de protestataires. Plus de 20 000 manifestants se pressent dans le centre de la capitale grecque. Les heurts se sont produits alors que le Premier ministre Georges Papandréou rencontrait le président grec Karolos Papoulias afin de s'entretenir de la grave crise de la dette que connaît le pays. Et en parlant de la Grèce, l'agence de notation Moody's annonce ce matin qu'elle pourrait placer 3 banques françaises sous surveillance. La Société Générale, le Crédit Agricole et BNP Paribas pourraient voir leur notation abaissée en raison de leur exposition à la dette grecque. Une mesure qui risque de se reproduire pour d'autres acteurs financiers. Dominique Chauffin.
Ces 3 établissements bancaires inquiètent Moody's parce qu'ils détiennent des obligations souveraines de l'État grec, mais aussi des prêts accordés au secteur privé en Grèce. Ce sont ces 3 banques françaises qui sont les premières visées, mais d'autres établissements, on parle du groupe Dexia en France, mais aussi, surtout, des banques allemandes, d'autres établissements pourraient avoir droit à un traitement similaire.
Ça veut dire que ces banques sont en danger ?
Le risque, il est directement lié à une possible restructuration de la dette grecque. Mais l'agence Moody's se veut pour l'instant rassurante sur la santé de ses banques. Elles restent solides, elles présentent une taille substantielle, une bonne diversification de leurs résultats. Bref, pour l'heure, pas de danger réel quant à leur survie.
C'est donc une pression réelle sur les banques qui détiennent de la dette grecque aujourd'hui.
Les ministres des Finances de l'Union européenne ne sont pas parvenus hier à résoudre leurs divergences sur la gestion de la crise grecque. Certains États veulent plus d'implication du secteur privé, principalement des banques, pour un deuxième plan de soutien à la Grèce. Et c'est une pression sur le secteur financier, choisir le moins mauvais scénario.
Et cet avertissement de Moody's jette évidemment encore de l'huile sur le feu, alors que les agences de notation ont été critiquées, remises en cause il n'y a pas si longtemps.
Les 3 grandes agences de notation, ce sont Standard & Poor's, Moody's, Fitch. Elles ont été critiquées parce qu'elles n'avaient pas vu venir la crise financière en 2008. L'Union européenne s'était engagée à réduire le pouvoir de ces agences, des mesures qui tardent à venir. Et ces agences de notation restent les principaux points de repère des investisseurs aujourd'hui. Elles multiplient leurs interventions pour ne pas rester à la traîne sur cette crise de la zone euro.
Dominique Chauffat de notre rubrique économique. Le policier vaudois qui a tué le passager d'une voiture volée dans le tunnel de Seva sur l'autoroute A1 ne sera pas poursuivi. Décision annoncée ce matin par le procureur général du canton de Fribourg. Le 18 avril 2010, les auteurs présumés de vol de voiture dans le canton de Berne avaient été pris en chasse par la police. Un ressortissant français avait été mortellement blessé par un tir des forces de l'ordre. Le procureur général du canton de Fribourg, Fabien Gasser, a expliqué à Muriel Balamont pourquoi il classait la procédure.
La police est un corps de métier qui est autorisé à être armé. Ce qui veut dire qu'il est aussi autorisé dans certaines circonstances à faire usage de son arme. Le but de ce genre d'enquête, c'est de savoir si dans les circonstances précises, le policier avait le droit d'utiliser son arme. Or ici, nous avons examiné toutes les directives policières et sommes arrivés à la conclusion que finalement, le policier a agi en parfaite conformité de ces directives. Concrètement, on a des directives sur l'installation des barrages. Il n'y en a aucune qui dit qu'un barrage ne peut pas être placé dans un tunnel. Et ensuite, on a des directives sur l'utilisation d'une arme qui nous dit notamment que l'arme peut être engagée dans des situations où il y a un danger imminent pour la santé, la sécurité de l'agent ou de tiers et qu'on est en présence d'infractions qualifiées de graves, comme par exemple des infractions commises en bande, ce qui était le cas ici, en tout cas ce qui était présumé pour le policier. Et puis, dans ces circonstances-là, l'usage de l'arme était alors légitime.
Et la famille de la victime a déjà fait savoir qu'elle comptait faire recours. Justice encore avec la suite du procès des faussaires qui ont inondé le marché d'une centaine de faux tableaux entre 2005 et 2008 à Lausanne. L'affaire avait démarré par le vol d'un Giacometti, mais l'enquête a permis à la police de découvrir un vaste trafic de grande ampleur. Le tribunal s'est penché ce matin sur le rôle du marchand d'art qui avait acheté ce tableau à Rennes-Lazare.
J'ai acheté ce tableau en toute bonne foi. Voilà ce que n'a cessé de répéter le marchand d'art. Alors le tableau en question, vous l'avez dit, hein, c'est un Alberto Giacometti, en l'occurrence un paysage de neige, volé chez une particulière et remplacé par une copie par les faussaires. Le marchand est accusé de recel, soupçonné donc d'avoir très bien su qu'il achetait un tableau volé. Ce qui intrigue le tribunal, c'est essentiellement le prix payé pour la peinture, 180 000 francs, un prix faible selon le ministère public. À l'époque des faits, les paysages de neige de Giacometti étaient bien cotés et s'achetaient cher. Le marchand d'art devait donc savoir qu'il s'agissait d'un tableau pour le moins problématique. Deux témoins produits par la défense ce matin qualifient pourtant la réputation de ce marchand d'excellente. Alors était-il impliqué ou non? Le tribunal va encore voir plusieurs témoins pour se faire une idée. À noter qu'en cours d'audience, la plaignante à qui le Giacometti a été volé a conclu un accord avec le marchand. Elle abandonne sa plainte pour autant qu'il lui rende son tableau. Une paix civile qui n'a apparemment pas ébranlé le ministère public qui continuera, lui, à soutenir l'accusation. Les audiences se poursuivent cet après-midi.
Ariane Asler de la rubrique vaudoise de la radio suisse romande. La plupart des messages que l'on trouve sur le blog Vie de Meuf sont drôles. Au début, on rit franchement, puis à force de les parcourir, on rit jaune. À la fin, on ne rit parfois plus du tout. Ces quelques lignes, on les trouve dans l'introduction du livre Vie de Meuf, qui vient de paraître aux éditions JBZ et compagnie. Un livre écrit à l'initiative du collectif français Oser le féminisme, dont vous faites partie. Basma Fadloun, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en direct de nos studios de Paris. Tout le monde en parle finalement de ce livre. Vous avez une énorme couverture dans les médias. Vous avez l'impression que la cause féministe est à nouveau au cœur du débat?
Oui, en fait, on a une très bonne couverture médiatique pour ce livre. Et en fait, tout avait déjà commencé avec la création du blog l'année dernière, où les femmes venaient témoigner du sexisme dont elles subissaient tous les jours. Et déjà, hein, grâce à ce blog, la parole s'est en quelque sorte libérée et a montré que le sexisme est toujours d'actualité et que le combat féministe est encore d'actualité.
Ce livre Vie de Meuf est truffé d'exemples concrets. Quand un couple achète un lave-linge, par exemple, c'est à madame qu'on demande combien elle fait de lessive par semaine. Tous les actes de la vie quotidienne semblent marqués par ce que vous appelez le sexisme ordinaire.
Oui, tout à fait, et on le voit aussi très bien dans le livre, qui est donc fractionné en plusieurs chapitres, et ça touche tous les aspects de la vie quotidienne, où les inégalités sont encore très fortes, hein, notamment au niveau des tâches ménagères. On sait que les femmes assument encore 80% des tâches ménagères, que les femmes gagnent 27% de moins que les hommes, donc oui, ça touche véritablement tous les aspects de notre quotidien.
Et le sexisme se conjugue aussi au masculin. On trouve par exemple dans votre livre ce témoignage d'un caissier à qui on demande si ça ne le dérange pas de faire un métier de femme.
Tout à fait. Alors le sexisme touche tout le monde. Et là, en fait, donc c'est en l'occurrence pour un homme, mais ça reste toujours une remarque sexiste où on va dévaloriser le travail des femmes.
On a l'impression que votre mouvement Oser le féminisme est mieux accueilli du côté des hommes, Basma Fadloun. C'est peut-être parce que ce livre, Vie de meuf, est aussi bourré d'humour, est assez drôle. On a l'impression que les chiennes de garde étaient à contrario peut-être un peu trop agressives. Vous partagez cette impression ?
Non, je ne pense pas. Nous avons donc été toujours une association mixte. Le combat pour l'égalité homme-femme, bien se fait avec tout le monde, et les femmes et les hommes. Et c'est vrai qu'à Oser le féminisme, nous avons toujours cherché à casser les stéréotypes, à faire changer les mentalités en utilisant beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humour, hein, parce qu'il en faut, beaucoup pour mener ce combat.
Et un exemple, on va en prendre un, puisque la planète Internet regorge de pubs sexistes. Dernière en date, celle pour une marque de produits d'épilation qui avait lancé un clip sur Internet pour inciter les femmes à s'épiler intégralement le maillot. Des femmes s'en étaient d'ailleurs offusquées. Sur votre blog, on écoute un extrait de ce spot publicitaire.
Comme mon minou est tout doux, il vaut le coup.
Voilà pour l'extrait de cette pub pour des produits d'épilation version dessin animé. C'était une chatte qui chantait le refrain, matée par un matou caché derrière la fenêtre. Bref, un spot ultra sexiste que la marque a finalement retiré face aux réactions hostiles et consternées, notamment du côté des féministes. Et on a pu le lire aussi sur votre blog. Ce genre de pub, ça vous horripile forcément ?
Oui, puisque ça enferme encore les femmes dans des cases où une femme doit absolument être épilée, surtout que c'était une publicité à l'égard, enfin pour les adolescentes, donc ça véhicule des images véritablement stéréotypées des femmes avec un homme qui la regarde. Enfin, c'est vraiment déplorable de voir encore aujourd'hui des publicités aussi sexistes qui enferment les femmes dans une image. On est déjà assez martelé donc par les médias pour en plus faire cette pub.
Le collectif Oser la féminité est organisé en réseau avec des relais dans une dizaine de villes françaises maintenant. Quel est leur rôle concrètement ?
Le réseau Oser la féminité ?
Oser le féminisme, pardon.
D'accord. Oui, alors le réseau Oser le féminisme, oui, donc nous sommes basés à Paris et nous avons plusieurs antennes locales en France et même sur l'île de la Réunion. Le but est de faire changer les mentalités et d'agir au quotidien partout en France.
Votre collectif.
Nous avons même pardon ?
Le collectif, il compte se servir de la présidentielle 2011 qui approche pour faire entendre sa voix peut-être un peu plus fort.
Oui, bien sûr, notre but est de convaincre et de faire changer les mentalités et de créer un véritable rapport de force afin que les politiques se saisissent de cette question de l'égalité femmes-hommes, et nous tentons et nous pensons bien donc faire peser cette question dans le débat public, et nous pensons déjà à une sorte de campagne d'interpellation pour les futures élections présidentielles de 2012.
Et l'affaire DSK a fait remonter quelques propos sexistes récemment en France, ça vous inspire quoi ?
Eh bien, ça montre très bien une réalité que certains ne voulaient pas voir, que le sexisme est partout, qu'il touche tout le monde, et ça montrait une société française encore très profondément marquée par ce sexisme, et véritablement aussi une méconnaissance des violences qui sont faites aux femmes, et encore une fois aussi toujours une minimisation de la parole des victimes. Nous, comme on a dit, on ne sait pas ce qui s'est passé ou pas à New York, mais on sait ce qui se passe en France. Et en France, on a eu un déferlement de propos sexistes de la personnalité publique, et c'est tout à fait inacceptable.
Merci beaucoup, Basma Fadloun, d'être venu quelques minutes en direct dans ce journal, membre du collectif Oser le féminisme, avec ce livre Vie de meuf qui vient de sortir aux éditions JBZ et compagnie. La météo, Eric Fauchère.
Une crête anticyclonique nous protège aujourd'hui, mais elle sera remplacée demain par une série de petites perturbations qui nous mèneront jusqu'au week-end dans de l'air plus frais et instable. L'après-midi sera bien ensoleillé malgré quelques voiles nuageux d'altitude et des cumulus en montagne. Un petit risque d'averse est à relever, notamment sur les préalpes. Le mercure touchera les 26 à 29 degrés. Demain commencera sous des auspices bien ensoleillés en matinée, mais bien vite le ciel se couvrira par l'ouest. Les premières précipitations toucheront le Jura et se généraliseront assez vite pour toucher le Valais en cours d'après-midi. Les orages issus de cette perturbation pourront être par endroits violents avec des rafales. Le mercure affichera 14 degrés au lever du jour et culminera à 23 voire 28 au maximum, 0 degré à 3700 mètres. Vendredi s'annonce très nuageux avec des pluies intermittentes, apparemment plus abondantes l'après-midi. Il fera 21 à 23 degrés au maximum. Samedi, encore des averses localement orageuses. Dimanche, nous retrouverons un temps sec progressivement.
Fin de ce journal, merci de votre fidélité. Merci à la rédaction, à l'équipe technique d'avoir contribué à sa réalisation. Demain, nous parlerons papillomavirus avec le docteur Martine Jacot-Guillermo. Excellent après-midi, il est 13h.